Botanique. Et vous, c'est quoi votre Noël de rêve?
Un sapin immense qui touche le plafond.
Des décorations et des bougies partout dans la maison.
Toute la famille réunie autour d'un bon repas.
Faire plaisir à tout le monde avec un petit cadeau.
Sapin, déco, saveur de fête, idée cadeau. Pour que Noël soit toujours unique, à chacun ses rêves, à chacun son Noël, chez Botanique.
15h-16h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant une heure en compagnie de ma complice et camarade, ma chère Ombline. Comment
bonjour,
ça va aujourd'hui?
Ça va bien, bonjour à
dans
tous.
Dans ces nouveaux locaux, je vous le rappelle,
ouais,
à la Seine-Sévenne, où
on est bien,
c'est
ouais.
Bleu, c'est... et puis il fait beau aujourd'hui. Tout est raccord. Pendant cette heure, nous partageons vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou plus difficiles, car comme vous le savez, Europe 1 s'intéresse à votre vécu. Difficulté à s'endormir ou au contraire, fatigue constante, crise de somnambulisme ou terreur nocturne. Les troubles du sommeil sont nombreux et touchent presque 36% des Français. 18% d'entre eux ne suivraient pas de traitement. Des maladies difficiles à déceler et qui peuvent être très handicapantes. La narcolepsie, par exemple, provoque une fatigue extrême et des cauchemars à répétition. L'insomnie, au contraire, empêche celui qui en est sujet de dormir. Si cela peut nous arriver à tous, c'est le quotidien de certaines personnes. Et cela peut être un véritable danger. Les troubles du sommeil multiplient par 2 les risques d'infarctus du myocarde et par 4 les risques d'AVC. Alors que faire contre les troubles du sommeil? Comment déceler ces troubles? Comment les soigner ou apprendre à vivre avec? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires au 3921. Nous sommes là pour vous écouter.
Et comme chaque jour, nous vous lisons aussi avec plaisir sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h-16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Françoise sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Françoise.
Bonjour Olivier.
Bonjour, comment allez-vous?
Un peu fatiguée. J'ai pas assez dormi la nuit dernière.
On va en parler justement. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Françoise?
Alors, j'ai 61 ans et là, j'habite Paris.
Vous êtes insomniaque depuis l'âge de 17 ans. C'est arrivé comment? Du jour au lendemain?
J'ai commencé, en fait, la veille de passer le baccalauréat. Et pourtant, j'avais pas de soucis scolaires, donc j'ai eu le bac quand même. Mais en fait, j'ai eu ma première insomnie, donc c'est sûrement lié à de l'anxiété, je pense.
Un choc, vous l'attribuez un choc émotionnel lié au baccalauréat?
Non, c'est pas un choc, mais c'était, si vous voulez, comme tous les gens qui sont perfectionnistes, un peu anxieux, bon, voilà quoi.
C'est quelque chose dont vous souffriez avant, en fait? Est-ce que vous aviez quelques troubles avant d'en arriver à cette insomnie depuis l'âge de 17 ans?
Non, non.
Donc jamais?
Non, je n'avais pas de troubles avant, et puis petit à petit, avec la naissance des enfants aussi, on se réveille la nuit, puis on prend l'habitude... d'être en veille pour écouter s'il y en a un qui pleure, enfin intervenir. Puis petit à petit, on a l'habitude de veiller la nuit, de ne pas dormir et puis ça fatigue.
Mmh. Combien de temps cela a duré avant que vous consultiez?
Moi, je consultais assez vite parce qu'en général, vous savez, c'est par période de stress. Quand on a des stress un peu plus importants que d'habitude, l'insomnie s'installe. Donc, j'ai dû consulter pendant mes études, quand j'étais étudiante, parce qu'évidemment, l'éveil d'examen, l'éveil de concours, j'avais des problèmes de sommeil.
Et donc, alors, le médecin, qu'avez-vous fait pour remédier à ce problème? Est-ce que vous avez pris des somnifères ou...
Alors, j'ai pris un peu de somnifères, mais à très petite dose. Et à courte durée.
Oui.
Et ensuite, j'ai surtout fait des séances d'acupuncture qui ont été très efficaces pendant 20 ans. Puis au moins un jour, ça n'a plus été efficace parce que ça arrive. L'effet des thérapies s'émousse au fil du temps et il faut trouver autre chose.
Combien d'heures vous dormez par nuit, Françoise?
Alors, en général, quand je dors pas trop mal, je dors 5-6 heures.
5-6 heures. Donc ça veut dire, est-ce que c'est 5-6 heures comme ça d'affilée ou est-ce que c'est 5-6 heures comptabilisées? C'est-à-dire vous dormez 2 heures, vous vous réveillez 1 heure, vous redormez 1 heure ou est-ce que c'est 5-6 heures comme ça d'affilée?
Alors normalement maintenant, comme j'ai fait des thérapies comportementales et cognitives, justement c'est mieux, je dors en affilée a priori.
D'accord.
Mais en plus c'est anarchique, hein, c'est pas toutes les nuits pareilles. Mais en général, c'est quand même d'un seul bloc. Parce que quand je me réveille à 4h30 du matin, ben, je ne redors pas.
Ouais.
Mais bon, si je me suis couchée à 23h, que j'ai dormi tout de suite, ça passe.
Bon, enfin, de 23h à 4h30 du matin, ça fait quand même une nuit courte. Justement, vous dites que le problème de l'insomnie, ce n'est pas tellement de ne pas dormir la nuit, hein, c'est de tenir la journée. Jusqu'à quel point ça peut être handicapant dans votre travail, par exemple ?
Eh ben, vous voyez, là, je suis pas en forme du tout parce que c'est l'heure où j'ai une baisse d'énergie, de la somnolence, j'ai du mal à me concentrer, je suis vraiment fatiguée. Et alors, une petite séance de relaxation, une petite sieste d'un quart d'heure, si j'arrive à dormir, ça fait du bien. Et en général, je suis mieux à partir de 4 heures de l'après-midi. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a des passages difficiles hein, comme ça. J'ai pas assez dormi, puis je suis toujours fatiguée, je suis toujours en manque de sommeil. Quoi. Mmh.
Vous savez aujourd'hui à quoi peuvent être dues ces insomnies, puisque à 17 ans c'était le bac, mais finalement là, avec les années, est-ce que c'est finalement le stress ?
Non, écoutez, moi je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a un facteur quand même génétique. Il y a aussi un facteur physio-psychologique, si vous voulez. Il y a des caractères anxieux, donc ont tendance à s'inquiéter et aussi perfectionnistes, à vouloir bien faire. Donc, ils trouvent toujours qu'ils n'ont pas assez bien fait. Et si vous voulez, c'est plutôt des personnes qui ont tendance à être insomniaques. Mais il n'y a pas... Enfin, chez moi, bien sûr, j'ai consulté un médecin, ce qu'il faut faire, voire même plusieurs. Et il n'y a pas de cause physiologique. Il n'y a pas de dépression, c'est vraiment, puis aussi c'est notre époque aussi, bon quand même, il y a beaucoup de lumière la nuit, dans les villes, il y a du bruit, on est sur des écrans, sur des smartphones quand même beaucoup, alors la lumière bleue ça ne fait pas du bien le soir, enfin il y a plein d'éléments, et puis une nature personnelle.
Hein. Vous avez créé une association appelée France Insomnie, sans doute parce que vous avez entendu parler autour de vous hein, que vous n'étiez pas seul à être touché par ces insomnies. Françoise, merci en tout cas d'avoir témoigné au 39-21. Dans quelques instants, nous accueillerons Laurent. Il est devenu narcoleptique suite à un vaccin et c'est devenu très handicapant pour lui.
Europe 1. Vous vivez ce que vit Françoise, vous vous êtes reconnue dans son témoignage, vous êtes atteint de troubles du sommeil. Vous nous racontez jusqu'à 16h au 39-21. Vous composez le 39-21 pour venir discuter avec Olivier Delacroix. Vous êtes somnambule, vous êtes atteint de troubles du sommeil. C'est un cauchemar au quotidien. Vous nous racontez votre histoire. Vous nous écrivez aussi via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Et nous avons eu Françoise au 39-21 dans la première partie de cette émission qui nous expliquait qu'elle souffrait de cette insomnie qui la touche depuis l'âge de 17 ans et que finalement c'était durant la journée que cela l'impactait le plus puisqu'elle était fatiguée, notamment lors de l'appel qu'elle nous a donné. Eh bien, elle était déjà fatiguée et il n'est que 15 heures. Nous sommes maintenant avec Laurent. Bonjour Laurent, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier.
Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Laurent ?
Moi, j'ai 62 ans et je vous appelle d'Eure-et-Loire, de Dreux, en Eure-et-Loire.
D'accord. En 2010, Laurent, vous avez commencé à vous endormir sur votre bureau. Quels autres symptômes aviez-vous ?
Ah bah, c'était mes premiers symptômes. Je m'endormais sur mon bureau. Mais... Après, le matin, réveil très difficile, beaucoup de mal à rejoindre mon travail. Oui. Et à trouver l'entrain au travail que j'avais auparavant. Quoi. Mmh.
Et c'est venu à la suite de quelque chose de particulier, ces symptômes-là ? Ils sont arrivés dans une situation précise ou ça vous a pris d'un seul coup ?
Non, ça m'a pris d'un seul coup. Ça m'a pris en mars 2010, d'un seul coup, comme ça, je m'endormais et je me demandais ce qui se passait. Quoi. J'avais des personnes sous ma responsabilité, j'avais honte, quoi. J'avais peur qu'ils pensent que... Enfin, je ne sais pas ce que j'avais pensé.
Mmh. Après, ça devait vous inquiéter, ça devait vous inquiéter énormément.
Ah, oui, ça m'a inquiété. Donc je suis allé consulter mon médecin du travail, à l'hôpital où je travaille. Et le médecin du travail me dit peut-être que c'est de l'apnée du sommeil. Mais il fait quand même une petite remarque que je n'ai pas sur le coup retenu. Il me fait une petite remarque, et puis vous avez été vacciné. C'est peut-être une narcolepsie post-vaccinale. Je vais faire une déclaration à la pharmacovigilance. Mais bon, après, pas de suite, quoi. Donc, pas de suite, mais je continue à travailler jusqu'en 2011. Mais entre-temps, arrivent des cauchemars affreux, quoi. Des cauchemars des cauchemars. Même tu me l'as en parlé tellement c'est émouvant, tellement ça fait peur, quoi. Mmh.
Des cauchemars, en fait, de quel ordre, en fait
Ben, je suis dans mon lit et les premiers, c'était des clowns méchants qui venaient m'enfoncer des piquets dans le corps.
Ouais.
Et moi, je suis totalement paralysé et je ne peux pas bouger, quoi. Je vis le cauchemar, mmh. Je le vis pleinement.
En tout cas,
je suis totalement paralysé.
En tout cas, Laurent, ces cauchemars vous ont beaucoup marqué à l'époque. Vous êtes allé voir le médecin et on vous a d'abord diagnostiqué une dépression. Est-ce que ce diagnostic vous a convaincu ou vous pensiez souffrir d'autres choses?
J'ai été suivi par un psychiatre en presque 2 ans.
Oui.
Pas d'évolution, pas d'amélioration, toujours ces cauchemars, toujours. Et après, donc, on m'a hospitalisé en psychiatrie,
oui,
pendant 15 jours. Pendant une quinzaine de jours. Et le psychiatre du centre de psychiatrie me convoque et me dit « Monsieur Devaux, vous n'êtes pas... » Oui, c'est pas grave. « Monsieur Devaux, vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas déprimé. En journée, vous participez, vous êtes... Vous avez, bon, moi, je suis dans un labeur assez agréable. Et, voilà, quoi. Il me dit « Vous n'êtes pas des traits d'une personne déprimée. » Vous devriez consulter quelqu'un pour le sommeil.
Oui. Ce que vous avez fait?
C'est ce que j'ai fait.
Mmh. Et cette personne, enfin ce médecin, vous a diagnostiqué quoi exactement?
Il m'a dit moi je ne suis pas compétent. Je ne suis pas compétent. Je pense que vous avez des troubles du sommeil et il faut aller voir des personnes compétentes pour des troubles du sommeil.
Mmh.
Voilà. Et c'est souvent ça. Hein. Je remarque que la plupart des médecins ne sont pas compétents dans ce genre de maladie. Et c'est pour ça qu'on tourne très très longtemps.
Et que vous a dit, vous avez fini par trouver un médecin compétent, je suppose. Qu'est-ce qu'il vous a dit, ce médecin?
Le médecin compétent?
Oui.
Alors donc, je suis allé à la Salpêtrière et j'ai fait une polysomnographie et des tests d'éveil en journée.
Oui.
Donc, à part de la polysomnographie, c'était un des éléments déclencheurs. Ils ont remarqué que j'avais des phases de sommeil paradoxal en début de sommeil.
Mm-hmm.
Des phases de sommeil paradoxal. Sommeil paradoxal, alors c'est assez complexe ce sommeil. Si c'était si simple que ça, ça irait. Sommeil paradoxal en début de sommeil et que j'avais un sommeil très fracturé. Ça veut dire que je ne bénéficiais pas du sommeil profond pour me reposer, quoi.
Est-ce que vous allez mieux aujourd'hui?
C'est tout à fait aléatoire. J'ai un nouveau traitement.
Vous dormez mieux quand même?
Un peu mieux.
Et ce traitement, pour finir, ça sera ma dernière question. Ce traitement, quel est-il et de quelle manière il a amélioré ce sommeil?
Mon traitement, en journée, c'est un psychostimulant.
Oui.
Et la nuit, le soir, je prends des gouttes pour entrer dans un sommeil profond immédiat. Je prends des gouttes en couchant et à 3h du matin, je me réveille pour reprendre des gouttes pour rester en sommeil profond et avoir un sommeil bénéfique.
Mm-hmm. Vous êtes fatigué là, au moment où vous me parlez encore? Vous souffrez de ces nuits? C'est encore assez agité ces nuits?
Moi, je crie la nuit, mais je ne me rappelle plus de mes cauchemars.
D'accord.
Donc mes cauchemars sont masqués par le médicament, à mon avis.
Mmh. Merci Laurent pour votre appel et votre témoignage. Et je vous souhaite bien évidemment de vous rétablir le plus vite possible et courage, parce que je sais que pour avoir vécu quelques insomnies, mais sans en souffrir de manière continue, c'est quelque chose qui est vraiment difficile à vivre. Nous serons dans quelques instants avec le docteur Sylvie Royan-Parola. Elle est présidente du réseau Morphée et elle est psychiatre spécialisée dans les troubles du sommeil.
Et on a un message de Leslie sur le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Mon compagnon souffrait d'insomnie depuis l'âge de 6 ans, malgré des médicaments, traitements. Il n'arrivait jamais à dormir des nuits complètes et depuis qu'on vit ensemble, il tombe de sommeil dans mes bras jusqu'au matin. On dirait qu'il rattrape les heures de sommeil perdues. Il arrive même à faire des siestes. Comment bien dormir? Comment éviter l'insomnie? Vous nous racontez votre histoire. Nous parlons des troubles du sommeil. Vous témoignez au 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous sommes maintenant en ligne avec le docteur Sylvie Royan-Parola, présidente du réseau Morphée et psychiatre spécialisée dans les troubles du sommeil. Bonjour madame et merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Bonjour. Ma première question porte sur les critères. Que peut-on dire d'une personne qui est insomniaque? Quels critères trouve-t-on chez ces personnes qui souffrent d'insomnie?
Alors, il y a une définition extrêmement précise, c'est que à la fois il y a des troubles qui touchent le sommeil lui-même, c'est-à-dire soit des problèmes d'endormissement, des problèmes de réveil ou un réveil trop précoce le matin, mais que tous ces troubles doivent nécessairement s'accompagner d'un retentissement le lendemain, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés à fonctionner le lendemain avec des troubles de la concentration, une humeur un peu irritable, une fatigue bien entendu, et des troubles de la mémoire, enfin différentes choses possibles,
oui.
Sachant qu'il peut très bien y avoir des gens qui ont un sommeil qui peut être un peu particulier la nuit et qui sont en pleine forme le lendemain. À ce moment-là, on ne parle pas d'insomnie.
Mmh. Mais nous avons tous parfois du mal à nous endormir lorsque nos soucis nous prennent trop de place, par exemple. Comment distinguer un état anxieux d'une véritable pathologie?
Vous pointez justement une des causes les plus fréquentes de l'insomnie, ce sont effectivement toutes les causes psychologiques. Donc après, on va tous effectivement avoir un jour des problèmes de sommeil parce qu'on vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, parce qu'on a des échéances le lendemain qui sont un petit peu lourdes. Pour autant, ça ne va pas nécessairement faire de nous un insomniaque parce que ça va être juste pendant quelques jours, pendant 8 jours, pendant 15 jours, et ça ne va pas se chroniciser. Mmh. Le problème étant, bien sûr, l'insomnie chronique, c'est-à-dire que ça dure depuis 3 mois ou plus, bien sûr, et que c'est toutes les nuits ou presque.
Et pourquoi les troubles du sommeil sont, semblent-ils aujourd'hui si difficiles à déceler?
Ils ne sont pas si difficiles à déceler que ça, c'est plus ils sont difficiles à prendre en charge parce que il y a quand même assez peu de ressources sur le pays. Et enfin, ces ressources sont surtout focalisées dans les grands centres, dans les grandes villes. Et donc, quand on a besoin d'avoir un spécialiste, si on habite dans certaines régions de France, on va avoir difficulté à trouver le spécialiste qui pourra vous aider. Oui. Et ça, c'est un vrai problème.
Parce que chaque trouble du sommeil semble différent hein, d'une personne à l'autre. Mais quelles sont les recommandations ou les traitements qui peuvent s'appliquer à tous ces troubles?
En tout cas, pour ce qui concerne l'insomnie, si vous voulez, il y a vraiment un vrai travail à faire sur soi, sur comment on se couche, comment on se lève, est-ce qu'on est régulier ou pas dans ses horaires. Et une des premières choses qu'il va falloir souvent corriger, ça va être la remise en place d'un rythme avec des horaires de coucher réguliers, mais surtout des horaires de lever réguliers. Le fait aussi de ne pas essayer de chasser le sommeil, enfin de pister le sommeil à tout prix, pour dormir un peu plus, c'est-à-dire il y a les insomniaques bien souvent vont aller se coucher plus tôt pour essayer de dormir plus, ils vont rester au lit le matin pour essayer là encore de dormir plus,
de rattraper,
et quand
ouais.
on fait ça, mmh. on fait justement strictement l'inverse de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que le premier mouvement des insomniaques qui vise à corriger son insomnie, eh bien en général ce premier mouvement n'est pas le bon, il faut à chaque fois recorriger ça en fonction de l'organisation et de la physiologie du sommeil. Et pour ça, effectivement, il y a un certain nombre d'habitudes et de conseils à remettre en place.
Alors justement, surtout, docteur, quelles sont les choses à faire et à ne pas faire quand on souffre, justement, quand on a du mal à dormir?
Alors la première des choses, c'est vraiment le soir, de se ménager un temps un petit peu un sas entre le moment où l'on a fini ses activités et le moment où l'on va se coucher, c'est-à-dire un moment de détente où soit on fait un petit peu de relaxation, soit tout simplement on lit ou même on regarde un film si l'on veut, mais pas dans la chambre. Et on ne va se coucher que pour dormir et pas trop tôt, c'est-à-dire qu'on attend quand même de faire un peu monter la pression de sommeil pour vraiment avoir vraiment le sentiment qu'on a sommeil. Et quand on va se coucher, on éteint de suite. Et le matin, quand on se réveille, pardon, on se lève de suite. C'est-à-dire que l'idéal, c'est ne pas passer plus de 8 heures dans son lit. Et parfois même, quand on dort mal, il faut pendant quelques jours, essayer de se coucher un petit peu plus tard, se lever un peu plus tôt, très régulièrement pendant 3 semaines. Et là, le sommeil commence à se régulariser. On reprend confiance dans son sommeil.
En tout cas, cherchez, si je vous écoute, docteur Sylvie Royon-Parola, cherchez une certaine régularité à trouver le sommeil et à appliquer cette régularité. Merci d'avoir été avec nous. Nous devons vous libérer, hein, car vous avez des consultations. Je rappelle que vous êtes présidente du réseau Morphée et psychiatre spécialisé dans les troubles du sommeil. Mille merci d'avoir témoigné sur Europe 1 aujourd'hui, docteur. Dans quelques instants, nous accueillerons Jérémy. Il a été narcoleptique et hypersomniaque, et ça a été très dur à vivre.
Et Virginie nous écrit sur Facebook, on est deux dans le lit, donc ça concerne deux personnes, ces troubles du sommeil, celui qui a le trouble et celui qui subit.
Europe 1.
Comment retrouver le sommeil? Vous êtes insomniaque, hypersomniaque, vous êtes somnambulisme, vous souffrez de somnambulisme, pardon, on vous écoute au 3921. Les chansons douces, les berceuses n'ont peut-être aucun impact sur vous quand dormir ou vous endormir devient un calvaire. Nous parlons des troubles du sommeil, vous témoignez au 39-21, vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes en ligne avec Jérémy. Bonjour Jérémy, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour, merci beaucoup.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Jérémy?
Alors je viens de Rueil-Malmaison,
oui,
en Île-de-France,
oui,
et Haute-Seine, et j'ai 33 ans.
Vous avez 33 ans. Alors l'insomnie, vous, c'est à l'âge de 15 ans que vous avez été touché et vous avez même été diagnostiqué narcoleptique. Vous ressentiez quoi exactement? Une fatigue constante, des difficultés à être opérationnel sur le matin par exemple?
Sur le matin, sur toute la journée.
Oui. Mais
c'était pas de l'insomnie, c'était de l'hypersomnie.
De l'hypersomnie. Alors c'est quoi l'hypersomnie?
Alors, l'hypersomnie, c'est s'endormir, un endormissement très long,
oui,
sans vraiment être reposé au final, tout le temps fatigué, dormir pendant 10, 12 heures, 14 heures d'affilée.
Mmh. Et être fatigué quand même.
Et être fatigué quand même, ouais, tout le temps. Uh-huh.
Puisque vous vous endormiez en cours, hein, si j'ai bien compris.
Voilà, je m'endormais en cours, en voiture, en conversation.
Ce qui était bien évidemment
où,
très gênant.
Très très gênant, oui.
À ce moment-là, en fait, qu'avez-vous fait? Vous avez donc consulté. Est-ce qu'il y avait un remède à cela?
Il y avait plusieurs traitements possibles.
Oui.
Effectivement. Mais aucun n'a marché sur le long terme. Ça a marché sur le très court terme, pendant quelques semaines, éventuellement 3 mois. Mais après, ça repartait aussi sec.
Oui.
Et c'était plus la peine, quoi.
Mmh. Mais je suppose que cela a été difficile de vous diagnostiquer. Il a dû falloir, pour les médecins, tâtonner. Est-ce qu'à un moment, un diagnostic assez précis est tombé et vous a soulagé?
Le diagnostic a été un peu long à faire.
Oui.
Mais une fois tombé, par contre, non, ça n'a pas été une bonne chose.
C'est-à-dire
La façon dont le médecin me l'avait annoncé,
oui,
c'était pas du tout comme il fallait à l'époque de mon jeune âge.
Mmh. C'est-à-dire que c'était pessimiste?
Oui, très ouais, très ouais.
Qu'est-ce que vous a-t-il dit, ce médecin?
En gros, si j'avais des rêves plein la tête, si j'avais envie de faire plein d'études, plein de trucs comme ça, je pouvais oublier, c'était pas compatible.
Mmh. Et
donc ça m'a détruit moralement.
Ouais, je comprends. Ouais. Et qu'avez-vous fait ensuite? Donc, est-ce que vous avez cru ce médecin ou vous êtes dit non, vous avez refusé en fait ce qu'il vous disait et essayé d'aller voir un autre médecin et essayer de contrer ce diagnostic-là?
Alors si, au début, on l'a cru,
ouais.
Donc il m'a mis sous Ritaline, sous Méliodal.
Ouais.
Mais comme ça partait, ça devenait c'était plus possible mentalement, enfin mentalement, moralement, on allait voir d'autres médecins qui ont repris qui m'ont fait repasser des examens, tout ça.
Oui.
Pareil, ils m'ont remis aussi sous médicaments, mais à dose beaucoup plus
forte,
plus normale.
Oui. Ah oui, plus normale. Plus normale.
Oui, plus normale. Ouais. Le premier médecin m'avait vraiment surdosé dans tous les sens.
D'accord.
Alors que le deuxième a été quand même beaucoup plus sympathique, on va dire, beaucoup plus sympa. Mais à ce moment-là, vu avec l'adolescence et tout, c'était plus la peine. Je voulais plus entendre parler.
Ouais.
Donc je me suis débrouillé tout seul. Je me suis débrouillé tout seul pendant une bonne petite dizaine d'années. Mmh. Et c'est là, aux dernières grandes vacances, où j'ai décidé de reprendre rendez-vous avec un autre médecin, un professeur Arnulf,
oui.
De la Pitié-Salpêtrière, spécialisé dans les troubles du sommeil, qui m'a refait passer des examens,
oui.
Et qui n'a pas trouvé de symptômes correspondant à la narcolepsie, à l'hypersomnie, tout ça, quoi.
Mmh. Jérémy, vous restez en ligne avec nous. Justement, on va continuer à parler de votre histoire et voir comment, avec ce professeur, vous avez avancé. On se retrouve dans quelques instants.
Europe 1. Nous parlons des troubles du sommeil cet après-midi. Comment avez-vous appris à vivre avec ? Vous nous racontez votre histoire au 39-21. Vous réagissez sur Twitter, hashtag Europe 1, ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Madame Rêve d'Alain Bachung, c'est votre rêve de bien dormir. Nous parlons des troubles du sommeil, trop gros dormeur, trop petit dormeur, des terreurs nocturnes ou du mal à vous endormir. Olivier Delacroix vous écoute et vous composez le 39-21.
Et nous sommes toujours en ligne avec Jérémy qui nous expliquait il y a quelques instants souffrir d'hypersomnie, de narcolepsie et puis avoir pris depuis l'âge de 15 ans beaucoup de médicaments, notamment de la Ritaline. Et puis cet été, avoir dit non, stop, avec l'aide d'un professeur spécialisé dans les troubles du sommeil à la Salpêtrière. Jérémy, où est-ce que vous en êtes justement aujourd'hui dans ce travail accompli avec ce professeur ?
Eh bien, le professeur a vu qu'il n'y avait aucun symptôme de narcolepsie, cataplexie ou syndrome Klein-Levin.
Oui. Ce qui veut dire que les autres s'étaient trompés avant ?
Alors, soit trompés ou en tout cas, j'en avais fait des symptômes, mais c'est très flou. Mmh. Vraiment, ce genre de diagnostic n'est pas facile, c'est vraiment cas par cas. Donc il aurait peut-être fallu pousser plus loin, peut-être voir dans d'autres directions. Là c'est un peu compliqué à dire,
ouais.
Compliqué à savoir. Mais à l'heure actuelle, donc je n'ai plus rien.
Vous n'avez plus rien.
Voilà, plus de narcolepsie, plus d'hypersomnie.
Mmh.
Peut-être un léger retard de phase, mais ça qui est dû à beaucoup d'errance dans ma vie, à me coucher tard, tout ça. Donc j'ai fini par me décaler avec le temps.
Qu'est-ce qu'un retard de phase, pardonnez-moi ?
Alors, un retard de phase, c'est quand, à force de se coucher tard,
ouais.
Le cerveau se met entre guillemets à l'envers.
Mmh.
Donc vous allez vous endormir tard, donc vous dormez la journée et vous réveillez la nuit.
D'accord. Ouais.
Ça va être des trucs comme ça. Mais qui est rattrapable en se recalant sur un rythme de vie. Un rythme de vie tout à fait sain. Mm-hmm.
Et justement, vous vous dites que depuis ça va mieux. Votre vie aujourd'hui, elle est redevenue normale ?
Ah bah beaucoup plus normale, oui. Ouais, ouais.
Ouais.
Ouais, ouais. Depuis que j'ai vraiment plus tous ces symptômes,
ouais.
C'est quand même tout est redevenu beaucoup plus clair.
Combien d'heures dormez-vous par nuit aujourd'hui ?
Alors à l'époque, je dormais entre 10h et 14h, ça peut ouais. dépendre des fois.
Mmh.
Aujourd'hui, il me faut entre 6 et 8h maximum.
Ouais. Et ça va beaucoup mieux ?
Ah, beaucoup mieux.
Ce qui rejoint finalement ce que nous disait le docteur Sylvie Royan-Parola tout à l'heure, c'est que finalement, en dormant de minuit jusqu'à 6h ou 7h du matin, en tout cas moins de 8h, c'est ce qu'elle expliquait tout à l'heure, ça tendrait à mettre en forme pour la journée. C'est ce qui vous arrive aujourd'hui.
C'est ce qui m'arrive aujourd'hui, oui.
Mmh.
Après, dans l'adolescence, il me fallait facilement 3h pour être opérationnel le
ouais,
matin.
Ouais.
Aujourd'hui, le matin, il me faut 5 à 10 minutes maximum.
5 à 10 minutes, ouais. Et donc, du coup, après, la journée s'enquille et vous êtes bien.
Et après la journée sans quille, je suis bien. Je peux avoir des petits moments, des petits coups de barre dans la journée, ça peut m'arriver. Mais c'est comme tout le monde, j'ai envie de dire. Hein, comme ça peut arriver à n'importe qui, voilà, on baille un petit coup. Puis bon, on va prendre l'air 5 minutes et puis voilà, c'est reparti pour un tour.
Mmh. D'accord. Aujourd'hui, tout va bien. Vous trouvez que par rapport à avant, je suppose que ça doit être le jour et la nuit. C'est le cas de le dire.
Ah, c'est totalement le jour et la nuit. Oui, c'est exactement ça. Avant, c'était vraiment l'horreur. J'avais pas de perspective de carrière, d'études ou quoi que ce soit. J'ai même quitté l'école en troisième à cause de tout ça.
Ouais.
Là, aujourd'hui, je suis dans une optique ou de reconversion professionnelle.
Ouais.
Donc, de reprendre des études, etc. Pour arriver à décrocher des diplômes et qui pourraient me donner une perspective de carrière beaucoup plus intéressante que je ne peux avoir là actuellement.
Bon, en tout cas, Jérémy, la perspective est un peu plus lumineuse aujourd'hui, même si voilà, vous avez 33 ans et que, bien évidemment, tout ça a un peu gâché votre jeunesse. L'important, c'est de vous entendre dire que vous avez à nouveau des perspectives. Je vous souhaite bon courage. Je vous remercie mille fois d'avoir témoigné au 39-21 aujourd'hui. Dans quelques instants, nous accueillerons Olivier, urgentiste, qui a lui aussi souffert d'insomnie.
Et il y a Tétel qui nous écrit sur Facebook « Je suis narcoleptique, mes nuits sont très atypiques, hallucinations et paralysie du sommeil, mes journées bercées par mes accès de sommeil. Vu de l'extérieur, ma vie pourtant pourrait ressembler à celle de Madame Tout-le-Monde. »
Europe 1.
Vous êtes épuisé à force de ne pas pouvoir bien dormir, vous êtes insomniaque, narcoleptique, hypersomniaque. Comment vivez-vous avec ces troubles du sommeil? Vous témoignez au 39-21. Vous souffrez de troubles du sommeil, vous échangez avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes maintenant avec Olivier. Bonjour Olivier, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Oui, bonjour Olivier. Bonjour. Delacroix.
Bonjour, vous nous appelez d'où et vous avez quel âge?
Alors j'ai 50 ans et je vous appelle des Pyrénées-Atlantiques.
D'accord. Alors Olivier, je vais résumer un petit peu votre histoire et vous me dites hein, si je commets une erreur. Mais vous êtes ex-urgentiste. Les horaires décalés, le rythme de ce travail ont causé un dérèglement de votre sommeil et pour finalement aboutir à des troubles qui vous ont plutôt gâché la vie et notamment la vie au travail puisque vous avez été obligé d'arrêter ce travail.
Alors, c'est pas tout à fait vrai. Je suis toujours urgentiste, d'accord. Mais j'ai dû démissionner de mon poste, en fait. J'étais praticien hospitalier, donc titulaire de mon poste, donc fonctionnaire. Et donc, je travaillais, comme tous les praticiens hospitaliers aux urgences, autant de jour que de nuit. Donc, on travaille en général, aller autour de 60 à 70 heures par semaine,
ouais.
En alternant des journées et des nuits.
Ouais.
Donc, soit on fait 24 heures de suite, soit on fait 14 heures de nuit et 10 heures de jour. Et on alterne ce rythme dans la semaine. Donc, on peut faire deux nuits dans la semaine et deux journées dans la semaine assez régulièrement.
Cela aboutit au bout d'un moment. En fait, vous êtes aperçu que vous souffriez de ces troubles à partir de quand?
Ah bah, ça a commencé, on va dire, autour de 40 ans, après 10 ans de carrière, je commençais à avoir de plus en plus de mal à enchaîner les gardes de 24 heures. Il faut savoir qu'on était à plus de 60 heures, voire 80 heures avant la réforme qui a vu le jour il y a quelques années, là, qui a limité notre activité à 48 heures, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. On fait encore largement plus, mais en tout cas, on est plafonné. Et je commençais à me réveiller à 4 heures du matin régulièrement et à me rendormir vers 6 heures. Et ça, cela même malgré une fatigue au travail qui était assez importante. Et ça s'est aggravé là, il y a 4 ans. Donc là, j'ai décidé d'arrêter de travailler 24 heures de suite et de faire seulement des nuits ou des jours, mais pas tout d'affilée, parce que ça devenait très très dur.
Malgré tout, oui. Parce que j'allais vous demander si ça allait mieux en prenant ces décisions.
Ça a été pendant un moment un peu mieux.
Ouais.
J'étais beaucoup moins fatigué, mais je continuais toujours à me réveiller à 4 heures du matin.
Ouais.
Et donc, j'ai pris la décision de baisser mon activité, de passer de 100% à 80%, de 80% à 60%. Mais le problème, c'est que l'hôpital, on a beau être à 160%, quand il y a des périodes de tension, ouais. L'été, pendant les vacances scolaires, pas mal de tension, si on a des collègues malades, on augmente notre quotité de travail malgré tout et on n'est jamais vraiment à 60%. Hein.
Mais est-ce que ça n'est pas le lot de tous vos collègues, justement? Je m'imaginais, est-ce que vous êtes seul à souffrir de ces troubles-là ou est-ce que c'est lié à votre métier? Je pense à tous les métiers où on est obligé d'enchaîner des heures là, comme ça et des gardes de 16 heures, 20 heures, 24 heures. Est-ce que vos collègues en souffrent aussi?
Ah, tout à fait. Là, l'été dernier, moi, j'étais déjà en retrait, donc j'avais déjà commencé à à démissionner, en fait. Et cet été, par exemple, dans l'hôpital où je travaillais, on a eu un collègue de 48 ans qui a fait un infarctus, en pleine garde, en plein milieu de la nuit. Bon, après, il est au bon endroit. Et voilà, donc sans facteur de risque, il ne fumait pas, pas de cholestérol, pas d'hypertension. Une collègue de 35 ans qui a fait un AVC, pendant le lendemain d'une nuit, donc les facteurs de risque, la multiplication du facteur de risque par 2 et par 4 des AVC, des infarctus, on peut en témoigner.
Justement, est-ce que vous avez l'impression que votre hiérarchie est consciente de ça et que faudrait-il faire pour éviter finalement qu'il arrive tout ce qui est arrivé à vos deux collègues dont vous venez de parler?
C'est simple, hein. Il faut prendre en fait conscience qu'on est en sous-effectif chronique, que malgré toutes les décisions qui sont prises dernièrement, il faudra plus de 10 ans avant qu'on arrive à régler et encore à amortir le problème, que les urgences, c'est devenu un travail de nuit qui est intense et que c'est le dernier recours pour beaucoup de gens, hein, la nuit. Et donc, on n'est pas en effectif suffisant pour faire front, en fait.
Pas en effectif suffisant pour faire front et sûrement pas dans une forme extraordinaire, malgré toute la bonne volonté que vous devez y mettre, Olivier. Merci en tout cas pour votre témoignage au 3921. Merci aussi à Françoise, à Laurent, au docteur Sylvie Royan-Parola et à Jérémy de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission. On l'aura compris, les troubles du sommeil peuvent être très handicapants, voire même dangereux. Un état de somnolence généralisé peut provoquer des accidents de la route, de l'inattention. Surtout, ils empêchent d'avoir une vie normale. Nous l'avons vu avec le témoignage de Jérémy, par exemple, qui a arrêté ses études à cause de sa narcolepsie et a eu cette jeunesse qu'il dit gâchée à cause de tout cela. Ces troubles sont aujourd'hui beaucoup mieux compris. De nouveaux traitements existent, comme la thérapie comportementale. Des centres du sommeil peuvent aussi vous aider. N'hésitez pas à faire appel à France Insomnie pour connaître les centres près de chez vous ou à l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance, qui sont là pour vous aider parce que nous sommes nombreux à souffrir de ces troubles du sommeil. Et nous n'avons pas eu l'occasion de vous dire, Ombline et moi, comment nous dormions, mais on a aussi ce type de problème. Donc c'est pour cela que cette émission était très intéressante. Merci pour vos témoignages. Vous pouvez bien évidemment continuer à en discuter sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux.
Et si vous veillez tard et que vous souhaitez partager votre histoire, si vous voulez continuer d'échanger, rendez-vous le soir avec la libre antenne d'Europe 1. Vous pouvez vous confier à Sophie Peters de 22h30 à 1h du matin.
Et si vous ne dormez pas.
Oui.
Voilà.
Justement.
Demain, nous parlerons ensemble de l'accouchement sous X, un dispositif peu répandu qui permet à une mère d'accoucher d'un enfant sans jamais dévoiler son identité. Quelles conséquences pour la mère comme pour l'enfant? Si vous avez accouché sous X, si vous êtes un enfant né sous X et que vous souhaitez connaître votre mère biologique, si vous avez retrouvé votre mère biologique, appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire. Ma chère Ombline, j'ai été ravie de passer cette heure avec vous,
également,
comme avec vous, chers auditeurs. Et je vous laisse maintenant avec l'excellente Laurence Boccolini qui va aujourd'hui accueillir encore
un invité. Mais il est vraiment fou, celui-là.
C'est le plus charmant de tous les voisins qui existent en France.
Ouais, c'est Gilles Alma.
Gilles Alma, bravo. Super. Mais il est là, il est prêt à entrer. Oui. Bonne émission, les filles.
Merci,
à demain. Au revoir.
À demain. Europe 1.